morale, Père Philippe, 1er décembre 1983 à Saint-Joseph.
On me pose ces deux questions, j'y réponds tout de suite avant de continuer. Peut-on voir la nécessité de la vertu au point de vue critique en disant que l'homme, en tant que réalité naturelle, est finalisé ? Cependant, en vertu de son conditionnement, en particulier de son imagination, qui peut trouver sa fin en elle-même, puisqu'elle n'est qu'au mouvement, il est nécessaire que la détermination l'emporte et donc que les puissances supérieures à l'imagination reçoivent une détermination plus grande. Oui, c'est ce qu'on essaie de voir en définitive, comprendre de la nécessité de la vertu par rapport à l'indétermination de certaines facultés. Et ces facultés n'étant pas suffisamment déterminées, l'imaginaire risque toujours de l'emporter. Mais c'est le grand combat intérieur. Hein. Alors on pourrait traduire ça par des causalités, ce serait intéressant. Étant donné que l'imaginaire, c'est le mouvement pur, donc c'est l'efficacité pure, l'imaginaire. Ça tourne toujours en rond. La folle du logis. Pas de limite. Alors, on comprend comment l'imaginaire qui tourne tout le temps, s'il n'y a pas une détermination très nette de la volonté et de l'intelligence, elle risque d'emporter. Or, de fait, c'est ce que nous allons essayer de voir, or, de fait, l'intelligence, notre intelligence et notre volonté ne sont pas assez déterminées par nature pour pouvoir résister à l'imaginaire. Il faut mettre une digue. Mais c'est le raz-de-marée, quoi, tout simplement, on pourrait dire. On voit très bien. La Hollande, hein. On est trop bas. Alors, s'il n'y a pas une digue qui se construit, il y a un raz-de-marée qui emporte tout. L'imaginaire, c'est toujours des raz-de-marée. C'est le mouvement pour lui-même. C'est quelque chose qui risque de tout emporter. Et quand on n'est pas très déterminé, l'imaginaire l'emporte tout le temps. Parce qu'il est tout le temps en mouvement, l'imaginaire. Il est beaucoup plus faible au point de vue de la détermination. Il n'a aucune finalité, mais il est toujours en mouvement. Le pantareil, hein, ça coule tout le temps, ça remue tout le temps, ça. C'est tout le temps ça, l'imaginaire. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Alors, il faut saisir que l'imagination, que l'intelligence et la volonté, naturellement, ne sont pas assez déterminées pour faire une digue. Et la vertu est là pour mettre une nouvelle détermination et empêcher l'imaginaire d'emporter l'intelligence et la volonté. Parce que c'est invraisemblable que l'imaginaire emporte l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté sont des facultés bien plus nobles que l'imaginaire. L'imaginaire, quoi, c'est des bêtes. Il n'y a rien derrière, quoi. C'est de l'être intentionnel, c'est quelque chose qui... de savon. Mais l'imaginaire emporte. L'imaginaire est capable d'emporter l'intelligence et la volonté. Il faut réfléchir à ça, parce que ça, c'est quand même très curieux. Et qu'on voit des systèmes philosophiques entièrement pris par l'imaginaire. Et qu'on voit des personnes qui sont entièrement pris par l'imaginaire. Qui n'arrivent plus à retrouver le ronc. Ils sont pris. Comment ça se fait ? C'est parce que l'intelligence et la volonté, naturellement, ne sont pas assez déterminées. Et au fond, la vertu lutte, à ce point de vue-là, contre l'imaginaire. Ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors, une autre question. Vous avez dit l'autre fois que notre volonté est toujours orientée vers le bien, qu'il s'agisse de fait d'un bien réel ou d'un bien apparent, toujours. La volonté, c'est un appétit qui est orienté vers le bien. Comment donc distinguer le bien réel du bien apparent ? Toute la question est là. Y a-t-il un critère pour cela ? Cela ne vient-il pas de l'intelligence pratique ou de la vertu de prudence ? pas de la vertu de prudence, parce que la vertu de prudence vient après. Alors, il faut essayer de préciser. Bon, alors nous allons essayer, et nous revenons au problème que nous avions posé la dernière fois, et que je viens de vous rappeler. Comment comprendre la naissance de la vertu de prudence dans l'intelligence? Puisque c'est la prudence qui est la vertu morale par excellence. Et la prudence vient s'enraciner dans l'intelligence pratique. Et la prudence permet à l'intelligence pratique de ne pas se laisser emporter par les vagues de l'imaginaire. L'imaginaire est à un niveau inférieur que l'intelligence pratique. L'intelligence pratique, c'est l'esprit. C'est quand même quelque chose qui est une noblesse infiniment plus grande que l'imaginaire. L'imaginaire demeure dans le sensible. L'imaginaire demeure dans tout ce que je peux représenter, dans tout ce que vous représentez, tandis que l'intelligence, elle, a quelque chose de beaucoup plus profond, puisqu'elle est capable de saisir la signification profonde des choses, et l'intellect pratique est capable de s'orienter vers le milieu d'une fin. Donc, est capable d'atteindre un bien spirituel. Puisque ma fin, c'est le bien spirituel, c'est la personne qui est mon Dieu, que je considère comme mon Dieu. L'intellect, l'intelligence pratique, dans ma vie, quand je réfléchis sur ce que je dois faire, comment orienter ma vie, l'intention de vie, relève de l'intelligence pratique. J'oriente ma vie vers une recherche de vérité. J'ai pris cette décision. Ça peut mener très loin. J'ai pris cette résolution-là d'orienter ma vie vers ceci relève de l'intelligence pratique. Ça ne relève pas d'imaginaire. L'imaginaire ne prend jamais de résolution. L'imaginaire a l'immense avantage de ne jamais prendre de résolution. Pas besoin de retraite pour l'imaginaire. Retraite pour l'imaginaire, oui, ce serait bien, tu vois. Pas besoin. Dès que vous prenez une décision, dès que vous prenez une intention de vie, ah, c'est l'intelligence qui est là au service de l'amour et qui décide une intention de vie, qui oriente, c'est l'orientation profonde de mon intelligence. Oriente en impliquant une détermination. Cette détermination vers ce bien spirituel, vers cette personne. Autrement dit, vers cette personne que j'aime. Et je veux orienter ma vie vers ce bien. Et donc, il y a une détermination profonde antérieure à la prudence. La prudence viendra ensuite. Mon intelligence est capable de m'orienter. Ayant saisi ce bien spirituel, je peux m'orienter vers ce bien spirituel. C'est ça quand vous prenez une décision. N'importe quelle décision, c'est ça. J'ai décidé de rechercher la vérité. J'ai décidé d'aimer cette personne. J'ai décidé de faire tel ou tel petit acte dans la journée, de me lever tous les matins à telle heure, de me coucher tous les soirs à telle heure. Ce sont des excellentes décisions, des excellentes orientations. J'oriente ma vie comme ça. Je prends un horaire fixe dans ma vie. Orientation. C'est l'intelligence pratique qui fait ça. Envie bien. Et elle fait ça grâce à l'amour qui m'oriente. Et grâce à ce bien que je peux atteindre. Toutes les décisions se prennent en fonction d'un amour vis-à-vis de ce bien spirituel. Pourquoi l'intelligence pratique a-t-elle besoin d'une nouvelle détermination qui provient d'elle, qui ne provient pas de l'extérieur, qui provient d'elle, et qui vient la déterminer du dedans pour lui donner ce qu'on appellera un habitus. Un habitus, une détermination nouvelle, qui n'est plus une détermination, qui n'est pas tout simplement l'orientation première. Pourquoi ? Si mon intelligence pratique était parfaitement déterminée quand elle prend une décision, elle n'aurait pas besoin de cette aptitude. On n'aurait pas besoin de la vertu de prudence. On est naturellement prudent. C'est admirable de voir ça dans un enfant. On voit aussi des imprudents, hein, c'est bien évident. Mais quelquefois, on voit des êtres, c'est très curieux. Il est imprudent quand on le regarde. Mais quand on ne le regarde pas, il est prudent. Parce que quand on le regarde, il y a la vanité qui pousse, vous voyez, l'imaginaire qui pousse. Ah, je vais montrer que je vais faire ça. Que naturellement, un gosse, il est prudent, on est naturellement prudent. Mais le naturellement prudent n'est pas assez fort. Le naturellement prudent n'est pas assez fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces vagues imaginatives qui l'emportent. Alors pourquoi ce naturellement prudent n'est pas assez fort, n'est pas assez déterminé ? C'est que l'intelligence est radicalement indéterminée. C'est ce fameux, cette fameuse affirmation d'Aristote qui est très importante, le tabula rasa. L'intelligence est comme une table rase sur laquelle rien n'est inscrit, un tableau sur lequel rien n'est inscrit. L'intelligence, autrement dit, et comprenez bien, parce que ça présuppose tout ça. Donc ça va très loin si on veut comprendre la nécessité de la vertu de prudence. C'est quand même important. Il est nécessaire d'acquérir la vertu de prudence. On verra comment l'acquérir après. Mais il est nécessaire d'acquérir la vertu de prudence. Il est nécessaire qu'il y ait une vertu, un habitus. Un habitus intraduisible. Hein? Une détermination stable. Quelque chose qui vient s'ajouter. En grec, exis. Donc il est nécessaire qu'il y ait un habitus qui vienne de l'intérieur déterminer l'intelligence vers son bien. Vers ma fin. Que je veux atteindre. Il est nécessaire que mon intelligence pratique soit déterminée par quelque chose pour le choix de certains moyens. Parce qu'autrement, l'imaginaire et les passions, ayant l'imaginaire, m'empêcheraient de faire un choix objectif. Ce qu'on dit couramment. Quand vous êtes dans un état passionné, vous ne faites plus de choix objectif par rapport aux moyens. C'est bien, c'est sûr. Mais mettez les gens dans un état de passion et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire choisir tout ce que vous voulez. Parce qu'ils sont dans un état passionnel. Alors ils ne choisissent plus rien du tout, ils sont incapables. Parce que leur intelligence est obnubilée par la passion. L'intelligence est obnubilée, l'intelligence pratique est obnubilée par l'imaginaire et la passion. Et les deux ensemble. Hein. Mais souvent, le point de vue imaginaire, c'est plutôt l'intention de vie. Les passions, c'est plus à l'égard des moyens. C'est ordinairement comme ça. Et si on essaie de comprendre un peu les deux manières dont de fait, on trouve dans l'intelligence pratique une nécessité d'être déterminé d'intérieur. Il est nécessaire que l'intelligence pratique soit fortifiée. Pourquoi ? Parce que l'intelligence pratique, c'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus radical. Or, l'intelligence dans ce qu'elle a de plus radical n'implique aucune détermination. Là, évidemment, je suis dans une position diamétralement opposée à celle de Kant. Deux positions diamétralement opposées, c'est intéressant du reste. Hein? Kant et Aristote. Kant et Aristote. Kant dit qu'il y a des formes a priori qui déterminent l'intelligence. L'intelligence saisit les choses en fonction de certaines formes a priori. Aristote dit non, pas du tout. L'intelligence est entièrement réceptive à son point de vue. Oui, ça, c'est quelque chose de très important à saisir. Je ne dis pas parce qu'Aristote le dit. Je dis tout simplement parce que il s'agit d'expliquer que l'intelligence progresse. Je suis capable de devenir plus intelligent. Petit à petit, je fais des progrès. Au bout de 6 mois, ça m'aperçoit. Des progrès en philosophie. Des choses que avant je ne comprenais pas et que maintenant je comprends. Il y a des progrès, l'intelligence est capable de progresser. Si l'intelligence est capable de progresser, ça prouve justement qu'au point de départ, elle est dans un état de réceptivité. Si l'intelligence était déterminée à priori, il n'y aurait pas de progrès. Il n'y aurait aucun progrès, tout simplement, je resterais déterminé. Les gens entêtés, ils ne progressent pas, ils sont conscients. C'est sûr, ils sont comme quand ils sont entêtés, ils ont des formes a priori qui déterminent ce plan, les âmes battées. Alors ils sont comme ça, ils vont toujours dans le même sens, toujours. Puis alors, ils disent, mais l'expérience ne vous apprend rien. Je suis entêté. Ça manque d'intelligence. C'est vrai, il y a des gens qui, l'expérience ne leur apprend rien. Ils retomberont tout le temps dans les mêmes bêtises. Enfin, on a envie de prendre un bâton et de taper dessus. Quand même, peut-être que le bâton leur fera comprendre quelque chose, parce qu'ils ne comprennent pas l'expérience qui devrait les guider, les éclairer. L'expérience ne fait pas comprendre. Alors, ça cause de quoi? Un manque d'intelligence. Mais pourquoi un manque d'intelligence? On a tous la même intelligence au point de départ. Parce qu'on a tous la même âme au point de départ. Ah oui, mais chez certains, l'intelligence est comme enfouie. C'est une expression si belle de Platon. De temps en temps, il y a un œil qui apparaît au-delà des bandelettes. Il y a un œil qui apparaît. Et alors, c'est facile d'envelopper l'intelligence d'une manière telle. Première éducation. Si la première éducation s'est faite d'une manière telle qu'on n'a jamais voulu répondre à un enfant quand il a posé une interrogation, on lui a dit « Tais-toi, espèce imbécile !» Au bout d'un certain temps, il a cru qu'il était un imbécile, et puis il a posé une question. Et alors l'intelligence s'est enfermée sur elle-même, sur son imbécilité congénitale. Elle s'est enfermée là-dessus. Mais congénitale des parents, pas de l'élève. Quand j'ai dit des parents, il dit tu es un imbécile, là il n'y a plus posé de questions. Si au contraire, le milieu dans lequel on a été était un milieu qui nous aimait, et des parents intelligents qui nous répondaient, c'est pas une question de culture, une question d'intelligence. Des parents qui s'occupaient des enfants, et qui répondaient, et qui leur disaient, ça c'est du chocolat, ça c'est de la farine. Il leur expliquait, tu vois, maman va faire ceci. On va faire cela, et on va faire ça ensemble. Immédiatement, l'enfant fait la même chose et puis il comprend. Et petit à petit, son intelligence s'éveille. Alors son intelligence se détermine comme ça, petit à petit, par le facere, faire avec la mère, faire avec le grand frère, et ainsi de suite, faire avec un ami. Alors on fait quelque chose et petit à petit, notre intelligence s'éveille. Et alors cet éveil de l'intelligence permet justement à une intelligence de progresser. Le progrès indique qu'il y a dans l'intelligence une capacité radicale de détermination. C'est en ce sens-là qu'on pourra dire que tu as vouloir raison. Il faut connaître cette expression d'Aristote. Tu as vouloir raison, c'est-à-dire une intelligence qui, au point de départ, est dépendante de la réalité. Or, l'intelligence est dépendante de la réalité, est capable de déterminer de la réalité. Aussi bien une intelligence qui recherche la vérité pour elle-même, ce qu'on appelle l'intelligence spéculative, ou une intelligence pratique. L'intelligence n'est pas totalement déterminée parce qu'elle est pratique. Elle n'a qu'une seule détermination. En tant qu'elle est pratique, elle n'a qu'une seule détermination. Elle n'est pas tabula rasa. La différence avec l'intellect spéculatif. L'intellect spéculatif est tabula rasa, au point de départ. On verra ça en critique, on verra que c'est nécessaire pour sauvegarder le réalisme de l'intelligence que l'intelligence est dans cette aptitude de réceptivité fondamentale. Et c'est très significatif quand vous regardez un gosse. La curiosité d'un enfant, pour moi, c'est merveilleux. Il pose tout le temps des tas de questions. Il essaie de comprendre pourquoi, pourquoi. Ça montre bien l'éveil de l'intelligence. Ça montre bien son désir d'aller plus loin et désir de connaître. Et de comprendre plus profondément. Alors, ça montre bien que l'intelligence, quand elle est spéculative, c'est une intelligence de tabula rasa. Tandis que l'intelligence pratique n'est pas tabula rasa. Elle implique une détermination, une orientation qui provient de l'amour. C'est que c'est une intelligence qui naît à partir d'un amour et à l'intérieur d'un amour. C'est une intelligence qui implique une certaine affectivité. Alors, cette intelligence est ordonnée vers un bien que j'aime. Et c'est le bien que j'aime vers lequel elle est orientée. Elle est orientée vers ce bien que j'aime. Si elle est orientée vers ce bien que j'aime, alors elle a donc cette détermination. Et à partir de là, elle reste indéterminée. Il y a la tabula rasa qui reste. C'est-à-dire, à partir de là, les indéterminations demeurent. Il faudra donc, à l'intérieur de l'amour, préciser les déterminations nécessaires. Parce que, radicalement, l'intelligence demeure indéterminée, qu'il s'agisse du point de vue spéculatif, du point de vue pratique. Alors, vous allez me dire, elle est radicalement indéterminée, mais elle se détermine elle-même. Oui, elle se détermine elle-même. C'est très vrai. Elle peut se déterminer elle-même, c'est-à-dire qu'elle choisit, qu'elle s'oriente. À partir de ce premier amour, je m'oriente vers un bien que je considère comme mon bien, la recherche de la vérité. L'amour d'amitié, d'amour. C'est très vrai, l'intelligence est capable, à l'intérieur de l'amour, de décider cette intention de vie. Elle est capable, à l'intérieur de cet amour, de choisir ce moyen. Elle est capable de faire ça. Mais elle reste toujours radicalement indéterminée. Et donc, les déterminations qu'elle reçoit, qui sont les déterminations qui proviennent de la vérité qu'elle cherche, de la vie qu'elle aime, de tel ou tel moyen, ces déterminations existent. Elles existent naturellement. Par l'intelligence à l'intérieur de son amour, mais ces déterminations risquent toujours d'être comme étouffées en situation limite face à la passion et à l'imaginaire. Et donc on peut dire que c'est à cause de cette indétermination fondamentale de l'intelligence que l'intelligence a besoin de. Ça, c'est très important à saisir. Je dois progresser dans ma recherche du bien. Je dois progresser dans ma recherche du bien que j'ai choisi, que j'ai opté, dans la recherche de l'ami que j'aime. Je dois progresser dans cette recherche. Et progresser dans cette recherche, c'est de faire que mon intelligence soit de plus en plus au service de l'amour. Et que mon intelligence ne se laisse pas impressionner par l'imaginaire et la passion. Et quand l'intelligence se laisse impressionner par l'imaginaire et la passion, l'intelligence se met à douter. Et une fois que l'intelligence se met à douter, l'intelligence ne peut plus aller avec autant de fermeté. Le doute, le scrupule. D'où vient le scrupule? L'imaginaire et la passion. Et le scrupule vient empêcher la détermination de l'intelligence. Et vous savez que le scrupule peut aller très loin. Le scrupule peut conduire à la folie. Parce que le scrupule enlève les déterminations et donc plonge dans l'angoisse. Un scrupule fort, un scrupule qui n'a pas été, dès le point de départ, dépassé, ça peut conduire à l'angoisse. Je voyais des psychanalystes à Paris. On parlait de ces questions-là, et eux-mêmes le disaient, on a regardé l'angoisse, on devrait analyser la différence entre l'angoisse qui peut provenir d'un point de vue purement psychologique, et puis une angoisse qui peut provenir du scrupule. Et on devrait, par le fait même, employer des moyens différents pour faire sortir d'une angoisse qui provient du scrupule et de l'angoisse tout court. Et on comprend très bien. Autrement dit, on dit l'angoisse aujourd'hui, comme s'il n'y avait qu'une angoisse. Mais non. L'angoisse est individualisée. Et donc, la cause de l'angoisse est différente. Et si on veut lutter contre l'angoisse, il faut savoir d'où vient cette angoisse. Eh bien, il y a une angoisse qui provient du scrupule. Ça, c'est sûr. Le scrupule, angoisse. On a tous fait cette petite expérience, on a tous eu dans sa vie des petites périodes de scrupule. Hein. Et puis, des fois, ça dure. Hein. Et les petites périodes de scrupule, c'est tout simplement quelque chose qui nous angoisse et qui nous empêche d'avancer. On a des pieds de plomb. Et ces pieds de plomb, ça vient de quoi? L'imaginaire et la passion. Alors, pourquoi le scrupule? Ah, on a peur de s'engager. On a peur de mal faire. On a peur. Oui, c'est la crainte. La crainte qui nous saisit. Parce qu'on s'aime de trop. Et on veut quelque chose de trop parfait. C'est un manque de véritable amour. Dans tout amour, il y a un risque. Parce qu'il faut se dépasser, il faut aller plus loin qu'eux. Alors on a peur, on se renferme sur les dimensions de sa petite casserole. C'est ça, on se renferme sur les propres dimensions de nous-mêmes. Et on n'accepte pas d'aller plus loin. C'est très curieux ça. Et ça, ça nous aide à comprendre la prudence. Un homme scrupuleux, qui n'est pas scrupuleux jusqu'à la folie, mais un homme scrupuleux, qui peut encore dialoguer. Et vous savez que les scrupuleux, ça dialogue bien. Avec des raisonnements extraordinaires, parce qu'ils veulent toujours nous convaincre qu'ils ont raison d'être scrupuleux. Et alors ça résonne bien. C'est extraordinairement tenace, hein, le scrupule. C'est très très tenace. Eh bien, si vous n'avez qu'à regarder que, de fait, le scrupule provient d'un repli passionnel imaginaire. La finalité n'est plus présente. Dans un raisonnement de scrupuleux, la finalité n'est pas présente. La finalité, c'est-à-dire l'amour, c'est plus présent. C'est l'amour qui nous permet de lutter contre le scrupule. Mais c'est très important pour nous et puis pour ce qu'on verra ensuite. Hein, vous aurez sûrement sur votre route des scrupuleux. Parce que le scrupule augmente dans la mesure même où la morale diminue. C'est très curieux. Parce que c'est une maladie de la morale, hein, le scrupule. Alors quand le point de vue moral n'est pas très fort, le scrupule, ça peut provenir aussi d'une conscience délicate. Alors on est scrupuleux à cause de sa conscience délicate. Alors c'est un affinement moral très grand. Des civilisations décadentes sont scrupuleuses, non pas à cause de leur décadence, mais parce qu'elles sont de grandes civilisations. Alors il y a une finesse qui s'est produite, et alors à ce moment-là, il y a un scrupule. Parce que la force de la finalité, la force de l'élan n'est plus présente. Alors on est replié. Et là on est replié sur soi. Donc il faut comprendre par le fait même que le scrupule, l'angoisse, ce qui nous empêche de nous déterminer, c'est parce que notre intellect pratique n'est pas parfaitement déterminé. D'où la nécessité de la prudence. Alors qu'est-ce que c'est que la prudence? Quand j'ai vu la nécessité de la prudence, en fonction de l'indétermination radicale de l'intellect pratique, en fonction de ses poussées imaginatives et de ses poussées passionnelles, je peux donc dire que la prudence, c'est une vertu qui... Un habitus. Quand je dis vertu, je veux dire un habitus. Un habitus acquis. J'ai acquis la vertu de prudence. Alors, on va voir comment. Il faut d'abord préciser. C'est un habitus acquis qui vient déterminer du dedans mon intellect pratique, mon intelligence pratique, en vue d'atteindre ma fin. C'est toujours en vue d'atteindre ma fin. Un homme prudent est un homme qui vit toujours droit à la finalité. On est toujours en face du but vers lequel on va. La fin qu'on poursuit. C'est là le propre de la vertu prudence. C'est de mobiliser toutes mes forces en vue d'acquérir ma fin. Alors, la prudence va jouer sur tous les actes de l'intellect pratique qui risque de manquer de détermination. Donc la prudence va jouer par rapport à mon intention de vie. La prudence va jouer par rapport au choix. La prudence va jouer par rapport à l'impérieux. Les trois grandes décisions. C'est normal, c'est toujours l'ordre c'est toujours par rapport aux décisions pratiques que la prudence est nécessaire. Donc vous l'avez du côté de l'intention, du côté du choix et du côté de l'impérieux. Donc la dernière décision. Fait ceci. Un homme prudent, donc un homme qui a acquis cet habitus particulier, un homme prudent est un homme qui sait exécuter au bon moment. Il y a des gens qui exécutent toujours en temps inopportun. Ils se lèvent trop vite, ils s'assiedent trop tôt. C'est tout le temps comme ça, ils sont pas prudents. Alors ils s'assiedent à la place de quelqu'un auquel ils auraient dû laisser leur place, et puis ils disent. Il se lève trop vite parce que à ce moment-là, il donne un signal d'alarme qu'il ne faut pas donner. Alors, on voit très très bien comment l'homme prudent, c'est l'homme qui sait déciser au bon moment. Exactement au moment où il faut. Il saisit le moment opportun. Le moment opportun où sa décision pourra porter tous ses fruits, c'est-à-dire être parfaitement efficace. Ça, c'est la précision de la prudence. La prudence apporte ici une précision. La prudence va permettre un choix qui, objectivement, est le meilleur. Le meilleur choix. Choisir le meilleur moyen. Le moyen le meilleur, c'est pas celui qui, objectivement, est le plus parfait. Le moyen le meilleur, c'est celui qui, pour moi, étant donné ma santé, étant donné mes qualités, étant donné mon intention de vie, ce moyen est le meilleur pour moi. C'est très, très cru. Vous allez comprendre. Le moyen. Il y a deux manières de choisir un moyen. Quand on aime énormément quelqu'un, on veut toujours choisir le moyen le plus rapide pour être le plus proche de lui. Alors, peu importe, ça n'a plus d'espèce d'importance, c'est le moyen le plus rapide. C'est le moyen le plus lié à la fin. Quand on aime beaucoup, quand on est fatigué, on prend le moyen le plus facile. Il faut toujours faire attention aux décisions de retraite. Si la retraite vous a fatigué beaucoup, vous prendrez le moyen de la décision, le moyen le plus facile. Si la retraite vous a emballé, vous prendrez le moyen le plus merveilleux qui soit, c'est-à-dire le moyen héroïque. Mais dès la fin de la retraite, le moyen héroïque cassera. Alors, résolution de date, une journée. Une journée. Pourquoi ? Parce que votre moyen n'était pas le meilleur. Il n'était pas prudent. C'était un moyen de quelqu'un qui était emballé. Alors il a pris ce moyen en disant c'est ça que je dois faire, c'était bien évident, c'est le meilleur, c'est celui-là. Moi j'aime indéfiniment celui qui dit Seigneur, Seigneur, c'est pas celui-là qui rentre dans le royaume de Dieu. Parce que si vous ne regardez que ce point de vue de l'emballement, mais vous ne pouvez pas choisir le vrai moyen. Le vrai moyen efficace. Le moyen demande d'être efficace en vue d'aimer plus. Et vous choisirez un moyen emballant. Sous l'effet d'un amour peut-être très vrai, très profond, mais qui n'est pas assez lucide. Alors vous choisissez un moyen qui n'est pas assez lucide. Et si vous êtes trop fatigué, vous choisissez le moyen le plus facile, alors le moyen le plus proche de vos capacités sans regarder la fin. C'est extraordinaire. C'est très très intéressant de voir le choix d'un moyen. Eh bien, la prudence va permettre de mettre un équilibre entre les deux. Et c'est vrai, la prudence équilibre. Le meilleur moyen, c'est celui qui est le plus proche de la fin et celui qui correspond le mieux à mes capacités. À mes capacités supérieures. Il y a les deux. Et l'homme prudent tient compte des deux. Parce que s'il ne tient compte que de son amour vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de la fidélité, il risque de se casser tout. C'est bien évident qu'en fonction de l'amour que j'ai, je veux ça. Oui, mais attention, est-ce que vous en êtes capable? Ah, j'ai oublié, je n'ai pas regardé. C'est quand même important. Ou bien, vous oubliez de regarder l'amour, et vous regardez votre capacité, c'est-à-dire votre faiblesse, vous tâtez le pouls, en disant, je ne suis plus capable de rien du tout, c'est plus pour moi, c'est pour moi. Le scrupule est dans, alors vous voyez ce que ça fait. Alors à ce moment-là, vous pouvez... Eh bien, la prudence permet un choix objectivement qui est le meilleur moyen. Vous dénichez le meilleur moyen. Un homme prudent est celui qui va être capable d'avoir une intention de vie, une intention forte, précise, bien déterminée de la vie. Je cherche la vérité. Et cette intention est bien déterminée. Donc la prudence vient, voyez, augmenter la détermination de l'intelligence en vue de l'amour qui est en moi et cet amour que je poursuis, en vue de la fin que je cherche. Il y aura donc trois aspects de la prudence. Alors, comment acquérir la prudence? Eh bien, il y a trois portes. La prudence est une seule vertu.
Une seule vertu. Une vertu.
Il n'y a pas trois prudences. Elle est reçue dans l'intellect pratique, dans l'intelligence pratique, et elle est en vue de ces trois actes. Alors, c'est là où c'est intéressant. Comment acquérir la prudence? J'acquiers la prudence en posant des actes bons d'intelligence vis-à-vis de l'intention de la vie. Alors, mon intention de la vie, je la renouvelle tous les jours. Si je suis pour acquérir la prudence, je la renouvelle tous les jours. Si je ne veux pas acquérir la prudence, je vais poser une fois cette intention de vie, puis j'oublie. Bon. Si je renouvelle mon intention de vie, ma prudence commence à déterminer profondément mon intention. Je dois répéter tous les jours mon intention profonde de vie pour acquérir la prudence. Si je ne le fais pas en disant « Oh, c'est suffisamment déterminé !» Non, 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 n'oubliez pas. Il y a l'imaginaire et la passion. Ne dites jamais que c'est suffisamment déterminé. Parce que c'est jamais assez déterminé. Il y a l'imaginaire et la passion qui risquent de l'emporter et d'effacer votre résolution, d'effacer votre intention de vie, de faire que vous ne voyez plus. Donc il faut répéter, et c'est en répétant qu'on acquiert progressivement ce que représente cette détermination intérieure de la prudence. C'est la même chose pour le choix. Je choisis librement tel ou tel moyen. J'use ce moyen. Il faut que mon choix libre puisse se répéter pour que je puisse comprendre ce qui est l'objet d'un choix précis de meilleur. Et quand il s'agit d'imperium, c'est la même chose. Alors l'imperium, faisons attention. Mais l'impérium, ça existe durant toute la journée. Parce que durant toute la journée, je suis obligé de me déterminer à exécuter quelque chose. Et quand on sonne la fin du cours, c'est un impérium. Alors un peu de souplesse, si j'étais qu'ancien, rigoureux, mais un peu de souplesse. Mais si je suis attentif, je peux faire un acte d'imperium correspondant au signal. Et à ce moment-là, j'acquiers progressivement la prudence. Ou je peux au contraire dire, oh, ça n'a pas d'importance, c'est la cloche qui sonne. On est tellement habitué. Alors, j'ai plus d'acte. À ce moment-là, on n'acquiert plus la prudence. On laisse glisser. Et alors, quand on laisse glisser, on n'acquiert pas la prudence. Vent comme je te pousse. Alors, la cloche vous pousse très bien. Tant que la cloche est là, ça va. Mais le jour où la cloche n'est plus là, plus rien. Parce qu'il n'y a plus personne qui vous pousse. Alors qu'on doit acquérir les déterminations pendant la journée pour, justement, que ces déterminations soient plus fortes. Donc, on acquiert la prudence en étant lucide sur mes actes ordonnés à l'intelligence. Sur mes actes. Parce que nous avons tous à acquérir la prudence. Hein. On va dire, maintenant c'est fini, moi, c'est suffisamment acquis. Pas du tout. La prudence de celui de 20 ans, de celui de 40 ans, de celui de 60 ans n'est pas la même. C'est pas la même. C'est différent. Et donc il faut que la prudence garde sa souplesse. Les voies indéterminées de la prudence. Des voies indéterminées. Et c'est très facile à comprendre, parce que le choix des moyens dépend de mes capacités. Et mes capacités à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'à 40 ans, ne sont pas les mêmes qu'à 60 ans. Le progrès ne se fait pas dans le choix des moyens. Le progrès se fait dans l'intensité de l'amour. Alors dans l'intensité de l'amour, pas d'âge. Mais dans le choix des moyens, il y a l'âge. Le conditionnement joue. Et donc, il faut que ma prudence reste une prudence souple, qui se refait tout le temps. La souplesse de l'intelligence. L'intelligence demande cette souplesse. Hein. Il faut qu'il y ait cette souplesse de l'intelligence. Et cette intelligence qui se reprend tout le temps et qui ne cesse de se reprendre. Alors, à ce moment-là, je peux dire que j'acquiers une prudence qui donne à mon intelligence une très grande souplesse. Alors, voyons tout de suite la seconde vertu. La naissance de la justice. La naissance de la justice. Pas de vertu au niveau de l'amour spirituel. Pas de vertu au niveau de l'amour d'amitié. Pas besoin. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. J'espère. Dommage que je ne peux pas vous le demander. Vous demandez tout de suite pourquoi. Pas d'habitus au niveau proprement de l'amitié. C'est une grosse question, ça, mais je crois qu'il faut conclure de cette manière-là. Pas de vertu du côté de l'amitié. Pourquoi ? Parce que l'amour d'amitié touche ce qu'est un bien absolu, le bien personnel, touche une certaine fin, un certain bonheur. Et que mon intelligence est naturellement ordonnée au bonheur. Mon intelligence, naturellement. Alors vous allez dire, ah oui, mais il y a l'instinct de mort. Selon Freud, il y a l'instinct de mort. Il y a des êtres qui se détruisent. Il y a des êtres qui tentent le suicide. Il y a des êtres qui, à ce moment-là, n'ont plus aucune envie de vivre. Laisse-moi mourir. On dit ça autrement. Laisse-moi disparaître. Laisse-moi crever. C'est-à-dire, on ne peut plus. C'est ça. Je suis vraiment là. On voit très bien ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que c'est ? À ce moment-là, vous dites, il y a un instinct, il y a un appétit naturel de bonheur. Vous voyez, situation limite. C'est très important, ça. Et pourtant, il n'y a pas de vertu qui m'oriente vers le bonheur. Il n'y a pas de vertu qui me permet d'aimer dans l'amour d'amitié, parce que l'amour d'amitié est mon bien et c'est ma fin. Et quand il s'agit de la fin, c'est très déterminé. Donc, j'ai pas besoin. Et quand il s'agit du bonheur, ah, mais parce que ma volonté est une volonté qui dépend de l'intelligence, l'imaginaire peut intervenir. Et c'est pour ça que je peux me trouver devant une situation limite qui fait que je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie de bonheur. J'ai disent impossible. Et je rejette. Alors vous allez me dire, puisqu'il y a cette situation, il faudrait donc un habitus de bonheur. Il faudrait donc une vertu qui soit pour le bonheur. Alors si j'avais acquis cette vertu du bonheur, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de danger. Si j'ai la vertu du bonheur, je ne pourrais pas me suicider. Si j'ai la vertu qui m'oriente vers le bonheur, il n'y a pas de danger, je serai toujours tourné vers la vie. Non. Cette vertu est impossible à acquérir. Alors là, c'est très curieux. Parce que l'appétit est naturellement tourné vers le bonheur. Mais comme cet appétit dépend de l'intelligence, c'est l'intelligence. Vertu du côté de la volonté. Il faut de la prudence. C'est encore une manière de comprendre la nécessité de la prudence. Je ne l'ai pas pris tout à l'heure. Hein. J'aurais pu prendre. Comment se fait-il qu'un être qui est normalement ordonné au bonheur puisse arriver dans certaines situations critiques à vouloir se suicider? Ce que nous voyons tous les jours. Comment ça se fait ça? Je dois regarder ça. Je dois regarder ça. Je dois regarder ce fait que les hommes sont portés vers le suicide. Et de plus en plus. Il y a quelque chose là qui est quand même très très significatif. Il faut regarder ça avec attention. C'est pas la volonté qui a un appétit naturel dans le bonheur. Mais c'est parce que la volonté dépend de l'intelligence pour atteindre ce bonheur que je peux à certains moments dire, je peux tout ça, c'est une illusion. Je confonds à ce moment-là mon intelligence et mon imaginaire. Et la passion aidant, je tombe.
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.